installez-vous confortablement, c'est l'heure de C'est moi qui lis. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est moi qui lis, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir un livre unique et magnifique. Chaque lundi, mercredi et vendredi soir, je vous partagerai un livre qui m'a touchée, surprise, choquée. Je vous en dirai bien sûr un peu plus sur l'auteur ou l'autrice, sur le processus d'écriture du livre, et je vous en lirai un passage. Ce soir, j'espère que vous êtes tous et toutes préparés pour une grande aventure, celle de Jack London. Il est né le 12 janvier 1876 sous le nom de John Griffith Cheney. Son père aurait chassé sa mère pour avoir été infidèle, et l'accouchement l'ayant rendu malade, c'est une ancienne esclave qui devient nourrice pour lui et qui l'élève. Sa mère se remarie avec John London, surnommé Jack. John Griffith prend le nom de famille de son beau-père, ainsi que son surnom, et devient dès lors le Jack London que nous connaissons. Alors malheureusement, son enfance a été très misérable. Il commence à travailler dès ses 15 ans. Il a d'ailleurs exercé de nombreux métiers et a été entre autres pilleur d'huîtres, chasseur de phoques, éleveur de poulets et chasseur d'or. Alors il se passionne très tôt pour la littérature, notamment grâce à la bibliothèque d'Auckland et Dinah Colbreath, la bibliothécaire. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de toute la vie de London, tout simplement car il y a beaucoup trop de choses à dire. En quelques mots, il a connu le succès comme le scandale, la famille comme la solitude. Sa vie est faite d'aventures et d'errances, et il a même été arrêté pour vagabondage et enfermé pendant 30 jours. Sa vie est marquée par ses excès. Drogue, alcool, relations épistolaires passionnées autres qu'avec sa femme, dilapidation de son argent. Il avait également une relation compliquée avec ses filles comme avec ses femmes. Alors Jack London fait partie des auteurs les plus lus au monde et fait également partie des auteurs publiés dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une édition publiée par Gallimard qui est considérée comme une référence en termes de qualité, de reconnaissance et de prestige. Jack London s'est notamment attelé à représenter l'Amérique de ceux et celles laissés pour compte et oubliés, milieu qu'il a bien sûr connu. Ses livres ont connu un grand succès. Lorsqu'il est chercheur d'or en Alaska, il écrit son premier best-seller, L'appel de la forêt, publié en 1903. Alors bien sûr, je vous le conseille, c'est l'histoire d'un chien de traîneau qui s'enfuit et qui redevient sauvage aux côtés des loups. Alors c'est une histoire parallèle à celle de Cro-Blanc dont je vais vous parler ce soir. J'ai connu Jack London avec Cro-Blanc et c'est un de mes livres préférés. C'est pour ça que ce soir, je m'autorise une petite entorse. Pas de livre peu connu, on y va franco avec le chef-d'œuvre de London. On se retrouve juste après Wolf, The First Aid Kit, pour en parler.
Do
Vous écoutez toujours C'est moi Kelly sur le 101.fm. C'était First Aid Kit et leur titre Wolf. Cro-Blanc, ou White Fang en anglais, nous emmène dans le Grand Nord, où le froid règne en maître glacial. Un jeune loup doit apprendre à survivre et se rapproche d'Indiens, qu'il appelle Cro-Blanc, et qui lui apportent chaleur et nourriture. Il finit par être racheté par un homme blanc, qui ne lui apprend que la haine. Un dernier homme finit par le sauver, et auprès de lui, Cro-Blanc apprendra l'amour. Cro-Blanc, chapitre 7, La muraille du monde, page 69. Quand sa mère prit l'habitude de quitter la tanière pour aller chasser, le louveteau avait déjà parfaitement assimilé la règle qui lui interdisait l'approche de l'entrée. Et ce n'était pas seulement par crainte des coups de patte ou de museau, mais parce que l'instinct de peur commençait à se développer en lui. Jamais, au cours de sa brève existence à l'intérieur de la grotte, il n'avait rencontré quoi que ce fût dont il aurait pu éprouver de la peur. Et pourtant, celle-ci était en lui. Elle lui était venue, relayé par des milliers et des milliers de vies du fond des âges. Il la tenait directement du borgne et de la louve auquel elle avait été transmise par les générations de loups qui les avaient précédés. La peur. C'est le sceau indélébile de la vie sauvage, dont chaque animal doit être marqué, sans qu'il puisse jamais s'en débarrasser. Le louveteau gris connaissait donc la peur, bien qu'il fût incapable d'en analyser la nature exacte. Sans doute l'acceptait-il comme l'une des contraintes de son existence. Car il avait appris qu'il lui fallait compter avec de telles contraintes. La faim, par exemple, il savait ce que c'était, et quand elle ne pouvait être apaisée, il ressentait cela comme une contrainte. L'impitoyable obstacle formé par les parois de la grotte, les douloureux coups de museau et de pattes prodigués par sa mère, le lancinant besoin de nourriture ressenti pendant plusieurs famines, tout cela lui avait fait comprendre que le monde n'était pas entièrement voué à la liberté, que la vie avait des limites et des obligations. Or, ces limites et ces obligations avaient force de loi, et mieux valait s'y soumettre pour éviter les ennuis et tendre ainsi vers le bonheur. Évidemment, il ne raisonnait pas à ce sujet comme le fait un homme. Il opérait simplement une distinction entre tout ce qui était désagréable et tout ce qui ne l'était pas. Et en fonction de cela, il s'efforçait d'éviter ce qui était désagréable, les obstacles, les contraintes, afin de pouvoir profiter par ailleurs des avantages et des satisfactions de la vie. Ce fut donc par soumission, tant à la loi de sa mère qu'à l'autre, inconnue et sans nom, la peur, qu'il n'approcha plus de l'entrée. Elle demeurait pour lui une blanche muraille de lumière. Quand sa mère n'était pas là, il passait le plus clair de son temps à dormir, et s'il était éveillé, il se tenait parfaitement tranquille, en réprimant les gémissements plaintifs qu'il sentait monter dans sa gorge. Lors d'un de ces moments où il restait couché sans dormir, il entendit un son étrange en provenance du mur blanc. Un glouton venait de s'arrêter devant l'entrée, tout frémissant de sa propre hardiesse et reniflant avec prudence pour essayer de déterminer ce qu'il pouvait bien avoir à l'intérieur de la grotte. Le louveteau n'en savait rien. Il fut seulement frappé par une odeur bizarre, une odeur indéfinissable, inconnue et par conséquent terrifiante, car l'inconnu est l'un des principaux constituants de la peur. Les poils de son dos se hérissèrent, mais il ne bougea pas. Comment savait-il donc qu'il y avait lieu de se comporter de la sorte à l'égard de cette chose qui reniflait ? Son attitude ne pouvait être dictée par aucune forme de connaissance acquise. Et pourtant, elle était la manifestation évidente de la peur qui l'habitait, et dont il n'y avait encore jamais eu d'équivalence dans sa propre vie. Et puis à cet instinct, s'en ajoutait un autre, celui de la dissimulation. Le petit loup était fou de terreur, mais il n'esquissa pas le moindre geste, ne proféra pas le moindre son, et demeura figé, pétrifié dans une immobilité aussi absolue que s'il avait été mort. La louve, à son retour, gronda en décelant les traces du glouton, puis bondit à l'intérieur de la grotte, où elle se mit à lécher son petit et à le caresser de son museau, avec d'inhabituels débordements d'affection. Et le louveteau comprit qu'il avait dû échapper à quelque chose de très désagréable. Mais d'autres forces bouillonnaient également en lui, notamment celle de la croissance, la plus active de toutes. L'instinct et la loi l'obligeaient à se soumettre. Mais la croissance le poussait à l'insoumission. Sa mère et la peur incitaient le jeune loup à se tenir à l'écart de la blanche muraille. Seulement la croissance, c'est la vie, et toute vie aspire à la lumière. Aussi ne pouvait-il contenir bien longtemps ce puissant influx vital qui montait en lui et dont l'intensité augmentait avec chaque bouchée de viande qu'il avalait, avec chaque bouffée d'air qu'il inspirait. Et finalement, un beau jour, toute crainte et toute soumission balayées par l'irrépressible trop-plein, le louveteau se risqua en rampant vers l'entrée de la grotte. Les relations qu'entretient Cro-Blanc avec chaque homme sont différentes et l'on apprend, on lit, que le loup s'adapte à ses différents milieux, tantôt hostiles, tantôt sécuritaires. La structure narrative de ce livre est pour moi époustouflante et on lutte avec Cro-Blanc face à la nature, face aux hommes, face aux autres animaux. Alors attention, pour moi, Cro-Blanc ne doit pas être à tort assimilé à de la littérature jeunesse. Ce n'est pas parce qu'il est souvent étudié au collège que c'est un livre réservé pour les jeunes, bien au contraire. Plusieurs lectures sont possibles et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire en règle générale. Relire des livres à différentes périodes de votre vie et à différents âges. Vous verrez que parfois, l'histoire semble être complètement différente. Cro-Blanc reste pour le moment le seul et unique livre qui m'a fait voyager à 10 000%. Je me souviens encore, quand j'étais jeune ado, dévorer ce livre et sentir le vent dans mes oreilles, le froid sur ma peau, les hurlements des loups au loin. Cro-Blanc est pour moi, en tout point, une pure merveille, rude, touchante, triste. Et je l'ai relu plusieurs fois et mon avis n'a pas changé. Il reste pour moi un chef-d'œuvre, que ce soit avec sa traduction française ou bien sûr en anglais, la langue originelle. Alors Jack London devait subvenir aux besoins de sa mère et a pour cela vendu les droits à l'avance de L'Appel de la forêt. Heureusement pour lui, le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, mais il n'a jamais plus touché d'argent sur ce livre. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Marion avec la chronique C'est moi qui lis. On se retrouve lundi pour un épisode sur Pénélope Bagieu, toujours sur le 101.1 FM, et en attendant, amusez-vous bien.